La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Florence Vanquali, pasteur à l'Église évangélique libre de Toulouse. On n'en finit pas de cette période dite compliquée. Je ne veux pas donner un tableau trop noir de notre vie, mais beaucoup de personnes autour de moi sont particulièrement inquiètes en ce moment. La maladie fait peur, bien sûr, aux anciens, aux fragiles, aux anxieux aussi. Les difficultés économiques inquiètent, les annonces changeantes ne rassurent pas et sèment plutôt le trouble, et les repères ne cessent d'évoluer. On n'a qu'à voir l'agressivité palpable pour sentir la tension qui règne autour de nous. Et ça, c'est sans compter tous les sujets d'inquiétude qui nous habitent d'habitude. Or, l'inquiétude a le chic pour nous faire perdre la tête dans la panique. Après coup, c'est vrai, on peut tirer des leçons rassurantes de ce qu'on a vécu. On peut voir Dieu à l'œuvre, trouver un sens à ce qu'on a traversé. Mais pendant, ni le passé ni l'avenir n'existent plus. C'est comme un trou noir. L'inquiétude, c'est, étymologiquement, l'absence de repos, l'absence de quiétude. Et nul d'entre nous n'en est indemne. La Bible parle de l'inquiétude de diverses façons et je vous propose de nous arrêter sur la fin de la lettre de Paul aux Philippiens qui peut nous accorder un éclairage intéressant. Donc je lirai dans Philippiens 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous, le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Alors la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. La lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Philippe est une lettre assez étonnante. Paul ne cesse d'y parler de joie, alors même qu'il est en prison à cause de sa foi et que les Philippiens eux-mêmes rencontrent le rejet, voire la persécution, à cause de leur foi chrétienne. Le grand sujet d'inquiétude pour eux, c'est l'opposition de leur entourage, avec tout ce que ça comporte de tristesse et de danger. Dans ce contexte, Paul les encourage. 1. Soyez dans la joie. Et 2. Ne vous inquiétez pas. Soyez dans la paix. Même sans être dans la situation de l'Église persécutée, pour notre part, l'inquiétude nous touche, nous aussi. Et nous pouvons nous approprier ces encouragements de Paul dans notre contexte. Ce contexte où les uns et les autres sont soumis au stress de la vie quotidienne, du travail, des tâches à accomplir, des relations compliquées, des défis familiaux, sans parler, bien sûr, de cette pandémie qui nous accable. Les discours effrayants relayés par les médias n'arrangent rien. Mais comment, au milieu de ces temps incertains et inquiétants, comment ce texte de Paul peut-il nous encourager, nous aujourd'hui, à trouver aussi la paix, le repos, malgré tout? Paul commence avec un massif « Réjouissez-vous ». Je le répète, il insiste, « Réjouissez-vous ». Quelle que soit la situation, nous sommes appelés à nous réjouir. C'est d'ailleurs pour Paul un des traits de caractère du chrétien, la joie, une des facettes du fruit de l'esprit, dans la lettre aux Galates par exemple. Et ce qui saute aux yeux avec Paul, c'est que la joie n'est pas liée aux événements extérieurs ou aux aléas de la vie. C'est plutôt un état intérieur, positif, marqué par le contentement, un état que nous sommes appelés à cultiver, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas la conséquence de ce que nous vivons, donc ça ne devrait pas varier en fonction de ce que nous vivons, mais c'est plutôt comme une posture, une attitude de base avec laquelle nous allons vivre, à cause de notre foi. Comment être joyeux au milieu de la persécution ou, ici et maintenant, dans un monde abîmé, dans une vie à risque avec nos problèmes et nos soucis, les maladies, le chômage, la solitude, la peur. Même quand on est dans une situation inquiétante d'ailleurs, la joie a rarement toute la place. Vous connaissez peut-être ces personnes, peut-être que vous êtes comme ça vous aussi. Ces personnes qui, quand elles reçoivent quelque chose de bien dans leur vie, tendent à relativiser en disant « Oui, bon, c'est bien, mais il ne faut pas trop se réjouir, il ne faut pas être trop insouciant, il ne faut pas trop en profiter parce que ça ne va pas durer. » On ne sait jamais, tout peut être chamboulé, il peut y avoir une tornade, un accident de voiture, un cancer, ou je ne sais quoi. Le bonheur ne dure pas. En réponse à nos inquiétudes, plus ou moins grandes, plus ou moins liées à des faits objectifs, en réponse à notre incertitude, Paul nous invite à remettre nos besoins à Dieu, à lui confier dans la prière nos soucis, nos préoccupations, nos peurs, peut-être même nos superstitions, nos peurs cachées. Remettre ses besoins à Dieu en lui confiant dans la prière, remettre nos besoins à Dieu en les lui confiant dans la prière, c'est un signe d'humilité et de confiance. D'humilité parce qu'on reconnaît que la situation nous échappe et qu'on ne peut rien garantir, qu'on ne sait même pas où commence la solution. Alors on s'en remet au Dieu très haut. Et de confiance parce qu'on reconnaît que la situation n'échappe pas à Dieu, qui lui est puissant, souverain, présent et qu'il peut faire face et nous aider à faire face à toutes les situations. La prière est un lieu où nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu, tous nos besoins. Et quand on est dans l'inquiétude, bizarrement, c'est peut-être là que c'est le plus difficile de prier. Combien de fois est-on préoccupé par un sujet à 400% sans pour autant oser ou imaginer en parler avec Dieu ? Parfois on oublie, parfois aussi on a peur. Peur qu'il trouve notre inquiétude illégitime ou stupide ou superficielle. Peur qu'il ne nous écoute pas ou peur qu'il fasse justement ce que l'on craint. Avouer nos inquiétudes à Dieu et les lui confier avec humilité et confiance, c'est énorme déjà, parce que dans ses prières, nous invitons Dieu dans la situation. Il est au courant de ce que nous vivons, bien sûr. Mais au travers de notre prière, il veut approfondir la relation qu'il a avec nous et nous inviter à lui faire toujours davantage confiance. Prier pour nos besoins approfondit l'intimité que nous avons avec Dieu et du coup la qualité de la relation que nous avons avec lui, le partenariat qu'il a créé avec nous. La prière nous fait du bien parce qu'elle nous rapproche de Dieu, mais elle n'est pas pour autant un soulagement automatique ou la garantie d'une solution immédiate. Dans le texte original, Paul parle de prière et de supplication. On a le droit de répéter nos prières tant que nos besoins nous dévorent. On a le droit de supplier, de crier, d'être émotif, d'interpeller. Regardez dans les psaumes combien de fois il y a ce « jusqu'à quand ?»« Jusqu'à quand, Seigneur ?» La prière n'est pas un formulaire anonyme que l'on remplit en disant « voilà, objet, tel besoin, description, date souhaitée pour la réponse ». Non, c'est un dialogue avec Dieu. Un dialogue avec Dieu qui se vit dans le temps et qui approfondit notre intimité avec lui. Dieu, dans sa patience infinie, nous exerce nous aussi à être patients et nous aide, prière après prière, à arriver peu à peu à une confiance plus grande. Il ne répond peut-être pas rapidement, et il faudra bien des prières et des supplications, mais il nous entraîne à une confiance qui grandit à travers la patience. Paul mentionne aussi la reconnaissance. Alors je ne crois pas qu'il s'agisse d'être reconnaissant pour les sujets d'inquiétude, pour la souffrance ou pour la perte, car Dieu ne traite jamais le mal à la légère, que ce soit le mal commis ou subi. Non, s'attacher à être reconnaissant, même dans l'inquiétude, dans notre prière, c'est faire le choix de ne pas se laisser noyer et aveugler par la situation, mais d'ouvrir les yeux sur l'action de Dieu en notre faveur, ce que Dieu a fait par le passé par exemple, ce qu'il fait aujourd'hui, sa manière d'être avec nous. Compter les bienfaits de Dieu aujourd'hui, ça peut être un antidote à notre panique. Ça peut être une façon de prendre du recul et de voir non pas seulement les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de nous, mais aussi les rayons du soleil, mais aussi les façons dont Dieu prend soin de nous. Non seulement ça nous encourage, mais ça nous rappelle que Dieu est à la hauteur, qu'il est à côté de nous à chaque instant et qu'il nous aime. La joie n'est pas seulement une émotion, c'est une prise de position. C'est le choix de ne pas se laisser submerger par les circonstances, le choix de se focaliser sur Dieu en lui confiant ce qui nous inquiète. Mais ce n'est pas facile de définir cette joie. Certains ont pu comprendre que si on n'est pas tout le temps joyeux, on n'est pas vraiment chrétien. J'ai une amie qui, quand elle a perdu sa mère, elle était toute jeune, hein, elle avait à peine 20 ans, quand elle a perdu sa mère, une des personnes de son église lui a dit « Oh là là, il ne faut pas pleurer, nous on est chrétiens, on est plein d'espérance. » Je ne suis pas d'accord. Jésus lui-même a pleuré. Il a pleuré sur la mort de son ami Lazare, il s'est lamenté devant la dureté du cœur de ses contemporains, il s'est mis en colère devant les compromis, les travers de sa société. Ça c'est Jésus, et je ne parle même pas des psaumes. La joie à laquelle Dieu nous invite n'est pas un sentiment artificiel, n'est pas une apparence qu'on cultiverait, un grand sourire à garder, scotché, quoi qu'il arrive. Non, la joie fait partie de ce que Dieu nous offre dans sa présence, comme l'amour, le pardon, l'honnêteté, etc. Ça fait partie de ces choses qu'on n'a pas forcément spontanément, comme je le disais, qui ne sont pas liées au contexte de ce que nous vivons, aux circonstances, mais qui s'arrachent en quelque sorte, pour laquelle nous travaillons, que nous essayons de nous approprier quoi qu'il arrive. La joie fait partie de cette nouvelle identité que nous nous approprions un peu plus chaque jour par la foi. C'est une sorte de but, hein, une orientation sur le chemin que nous voulons parcourir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en visant la joie, nous la vivons. Comme en visant l'amour, on commence déjà à l'expérimenter. La motivation de Paul pour refuser l'inquiétude, pour choisir la confiance, pour choisir la joie, c'est Dieu et Dieu seul. Alors Paul donne deux raisons dans ce texte. La première raison, c'est que le Seigneur vient bientôt. Alors bientôt, ça me fait souvent sourire parce que je me dis, bon, ça fait quand même 2000 ans et nous attendons toujours le retour du Christ. Donc ce bientôt n'est pas forcément à comprendre comme une indication de temps, mais plutôt comme le rappel que Dieu est prêt à intervenir. Il est là, hein, il est à la porte. Il n'a pas changé de planète, il est resté tout près de nous. C'est le Dieu de Jésus-Christ en qui nous sommes sauvés, relevés, restaurés. Comment un Dieu qui a donné son propre Fils pour nous sauver, qui demeure en nous par son Esprit, pourrait-il nous abandonner ? Regarder au Christ, c'est voir un Dieu tout-puissant et bon, mais aussi tout près, tout proche de nous, en qui nous pouvons avoir confiance et en qui nous pouvons placer notre paix, quoi qu'il arrive. Et justement, Paul non seulement nous rappelle qui est ce Dieu en qui nous nous confions, mais il nous adresse aussi une promesse de la part de Dieu, la promesse de la paix. Versets 6 et 7, présentez vos prières à Dieu, verset 7, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Vous remarquerez que, peu importe nos demandes, il n'est pas toujours question de résolution immédiate. Ça arrive, hein, que Dieu réponde, mais ça peut aussi ne pas arriver. Dieu ne promet pas d'être notre gris-gris, notre porte-bonheur, mais il promet de nous écouter, de se tenir près de nous, d'être présent et de nous aider à avancer malgré tout. Peut-être que vous le savez, mais le terme « heureux » en hébreu, ça veut dire « en marche ». Dieu nous promet de marcher avec nous, de nous rendre heureux par sa présence. Il ne nous fera pas toujours changer de chemin, et ce chemin sera parfois sombre, parfois fermé, parfois dangereux, mais Dieu nous promet d'être avec nous, à travers Jésus-Christ, à travers son esprit, et de nous tenir par la main. Ça a été prouvé dans une expérience que la douleur que l'on ressent, la douleur que l'on ressent donc, est diminuée lorsque l'on tient la main d'un proche. Bah, Dieu nous promet de nous tenir la main, quoi que nous traversions. Et ce n'est pas juste un proche, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui a fait jaillir la vie au milieu de la mort. C'est lui qui promet de nous soutenir dans notre marche, quelles que soient les difficultés. Avant de terminer, j'aimerais m'arrêter sur les versets 8 et 9 que j'ai laissés pour l'instant de côté. Je vais les relire. Frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, Paul, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Cette exhortation assez classique nous rappelle que la vie avec Dieu est un ensemble. Oui, nous sommes sauvés, délivrés, relevés par le Christ dans le but de mener une vie belle et bonne, reflétant les valeurs et le caractère de Dieu, faisant briller sa lumière dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Et ça, c'est vrai, autant dans les moments faciles que dans les moments difficiles. La bonté du Christ, sa bienveillance, sa douceur, sa patience doivent devenir notre emblème, notre marque de fabrique en quelque sorte, en toutes circonstances. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces exhortations suivent directement l'appel à ne pas s'inquiéter. Il y a même un rappel entre la paix promise aux croyants, verset 7, et la promesse que le Dieu de la paix sera avec ceux qui choisissent un mode de vie divin, au verset 9. Souvent, l'inquiétude nous pousse à des comportements désordonnés. On est dépassé par un problème, alors on panique, on fait n'importe quoi, on s'agite dans l'espoir de résoudre nous-mêmes cette situation. C'est un petit peu le cas d'Abraham et Sarah, par exemple. Quand ils ne voient pas arriver l'enfant de la promesse, ils décident de prendre les choses en main et de passer par Agar, qui donnera Ismaël. C'est un exemple, il y en a tellement dans notre vie. Tous ces moments où on se décourage, ou alors on reste paralysé par le sentiment d'impuissance devant la situation, et alors on abandonne le bien. Paul nous dit, au lieu de vous agiter, au lieu de paniquer, au lieu de vous disperser, de vous bloquer ou de vous paralyser, confiez la situation à Dieu dans la prière, mais ensuite, agissez. Pas forcément pour votre situation d'ailleurs, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez vivre de bon. Et je trouve que c'est très juste de rappeler aux chrétiens inquiets le champ d'action possible. C'est comme si Paul disait « Bon, c'est vrai, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses qui vous dépassent, mais voilà tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez soutenir et tout ce que vous pouvez encourager. C'est vrai, vous n'êtes pas tout puissant, mais vous n'êtes pas non plus totalement impuissant. Ce dont vous avez besoin, demandez-le. Mais n'oubliez pas votre vocation, ne méprisez pas votre potentiel. Ne vous laissez pas décourager, paralyser ou aveugler. Non, après avoir confié la situation à Dieu, appliquez-vous à ce que vous savez faire, à ce que vous pouvez faire, même ce qui n'a pas de lien avec vos problèmes. Remettez-vous en route, en sachant que Dieu marche avec vous. Alors oui, en toutes circonstances, cultivons la joie. Apprenons à remettre à Dieu tout ce qui obscurcit notre vie. Apprenons à nous concentrer sur sa présence, sur son amour pour nous, sur sa puissance et sur ses projets. Cultivons le repos de la confiance et de la reconnaissance en sachant que Dieu a tout surmonté à travers Jésus-Christ pour marcher avec nous jusqu'au bout.
Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui dans ta sûre main, je te bénis. Seigneur, confie en toi. Je sais.